Le journal vous est présenté par Anne Fauquemberg.
Bonjour. Au Chili, en dépit des réformes progressistes de ces dernières années, le camp de la socialiste Michelle Bachelet semble en difficulté pour remporter l'élection présidentielle. Premier tour aujourd'hui, l'ex-président de droite Sébastien Piñera est donné favori. Reportage de notre correspondante Justine Fontaine au début de ce journal. Au Zimbabwe, la fin de règne se précise pour Robert Mugabe. Le président est en passe de perdre tous ses soutiens, son parti de la ZANU-PF, mais aussi les anciens combattants de la guerre d'indépendance. Précision de Nabila Hamel dans un instant. Que peut-on attendre du congrès extraordinaire du PCF en France, annoncé pour l'an prochain? Analyse à suivre de Stéphane Courtois, spécialiste du Parti communiste. Et puis à 12h40, votre rendez-vous avec la face cachée du Globe et Nadine Epstein. Au Chili, 14 millions de citoyens sont appelés aux urnes aujourd'hui pour le premier tour de l'élection présidentielle, élection qui pourrait faire rebasculer le pays dans le camp conservateur. 8 candidats en lice, mais l'ancien chef d'État, le milliardaire Sébastien Piñera, est le grand favori. Il est crédité d'environ 42% des intentions de vote. Quant à la socialiste, Michelle Bachelet, avec déjà 2 mandats à la tête du pays, elle ne peut pas se représenter. Son successeur potentiel, Alejandro Guillier, semble mal parti, même s'il affirme vouloir poursuivre les réformes progressistes de ces dernières années, Justine Fontaine.
Dans ce quartier de bureau, à quelques stations de métro du centre historique, Derich paraît presque embêté de le dire.
Mince, vous êtes tombé sur quelqu'un qui est contre Michelle Bachelet.
Père de 2 enfants, il est mécontent de la réforme du secondaire et il s'inquiète de la délinquance.
Le sentiment d'insécurité a beaucoup augmenté.
Comme Derich, Johanna Caraco, 30 ans, s'apprête à voter pour la première fois ce dimanche. Elle est plutôt contente de ce qu'a fait la présidente sortante, mais...
Il faudrait faire bien plus pour la santé et l'éducation.
Parmi les mesures adoptées sous Michelle Bachelet, l'union civile pour les couples homosexuels, la gratuité à l'université pour les plus modestes, la mise en place d'un scrutin proportionnel ou encore la légalisation de l'avortement dans certains cas, des changements d'une ampleur inédite depuis la fin de la dictature de Pinochet en 1990, selon Claudio Fuentes, professeur de sciences politiques à l'université Diego Portales.
Si on le remet en perspective, je pense que cela restera le gouvernement qui a fait le plus de transformations en si peu de temps.
Selon lui, l'impopularité de la présidente s'explique notamment par un scandale de corruption touchant son fils et une croissance économique attendue autour de 1,3% seulement cette année.
Un reportage à Santiago de Chili de Justine Fontaine. En Argentine, la marine pense avoir été contactée hier à 7 reprises par un sous-marin dont elle est sans nouvelles depuis mercredi dernier. La dernière position connue du bâtiment se situe à 430 km des côtes de la Patagonie. Il est toutefois difficile pour l'instant de déterminer la provenance des signaux et le contact n'est toujours pas établi avec les membres de l'équipage. Au Zimbabwe, le plus vieux dirigeant en exercice au monde pourrait quitter le pouvoir ce dimanche, au lendemain de la grande manifestation citoyenne à Harare pour demander le départ de Robert Mugabe. Les événements semblent s'accélérer. Le chef de l'État doit rencontrer dans la journée les généraux qui ont pris les rênes du pays mercredi dernier. Et la formation politique au pouvoir, la ZANU-PF, organise en ce moment même une réunion extraordinaire de son comité central, Nabila Hamel.
Oui, il n'a plus l'armée avec lui, ça on le sait depuis mercredi, date à laquelle il a été déposé et placé en résidence surveillée. Il n'a plus la majorité des sections de son parti. D'ailleurs, les militaires avaient même entamé hier des discussions avec le groupe des 40 irréductibles, les militants de la ZANU-PF qui avaient soutenu la candidature de l'épouse du président Mugabe. Et aujourd'hui, ce sont donc les vétérans de la guerre pour l'indépendance du pays, l'ex-Rhodésie, un groupe très influent dans le pays, qui l'ont lâché. Bref, il ne reste plus grand monde pour soutenir celui qui s'accroche au pouvoir depuis 1980. Et puis hier, on l'a vu, la rue a bougé, a parlé et le mot chez les manifestants, comme chez les vétérans, les militants ou les militaires, est « partir un peu ». Le dégage des printemps arabes. Mais à 93 ans, l'autocrate Mugabe, qui a toujours su avoir raison de ses oppositions, essaie de s'accrocher ou peut-être de négocier. Quoi qu'il en soit, le comité central du parti au pouvoir est réuni, vous le disiez. Il veut en finir dès aujourd'hui avec Mugabe. Mugabe qui essaie encore de marchander pour s'en tirer dignement. Il doit rencontrer dans la journée l'état-major de l'armée en présence du prêtre Fidelis Mukonori qui joue le rôle de médiateur. L'opposant Emmerson Mnangagwa ancien chef des services de renseignement et vétéran de la lutte pour l'indépendance comme Mugabe, devrait lui former un gouvernement intérimaire d'union nationale dont les priorités seront le redressement d'une économie ruinée et la réintégration au sein de la communauté internationale. Bref, le long règne de Mugabe est en passe de s'achever.
Nabila Hamel, merci pour vos précisions. Diriger, c'est savoir quand le temps du changement est venu. Déclaration de Jerry Adams hier soir en clôture du congrès du Sinn Féin. Âgé de 69 ans, il dirigeait ce parti qui est aussi l'ancienne branche politique de l'armée républicaine irlandaise depuis plus de 30 ans. Un congrès extraordinaire sera organisé l'an prochain et devrait faire émerger un nouveau dirigeant. L'Allemagne se dirige-t-elle ce dimanche vers de nouvelles élections législatives? Ce sont les pourparlers de la dernière chance aujourd'hui pour former une coalition. Depuis le mois dernier, les conservateurs de la chancelière Angela Merkel, les libéraux et les écologistes tentent de trouver un accord de gouvernement. Ces trois formations y sont parvenues, sur l'économie, l'agriculture notamment. Mais pour la chancelière, ce n'est pas encore gagné sur l'énergie ou encore l'immigration, David Philippot.
Fidèle à sa tactique, Angela Merkel est restée en retrait. Elle avait tout à perdre dans l'histoire, rien à gagner au centre de la bataille qui oppose les durs de son camp aux écologistes libertaires et leur position aux antipodes. Sur les réfugiés, sur l'énergie ou même sur le renforcement de la zone euro chère à Macron, tous arc-boutés, l'invective à la bouche. Pas le genre de la chancelière qui déteste les conflits et met rarement son ego dans la balance dans ces cas-là. Angela Merkel, la scientifique, à la recherche de la synthèse impossible, va tenter de les avoir tous à l'usure, comme elle a si souvent fait le coup à Bruxelles. La patience est son arme favorite. Vu que les positions n'ont pas bougé d'un millimètre en un mois, il lui a fallu enfin relever les manches. Du bout des lèvres, elle a soutenu les propositions des Verts sur la sortie du charbon, sur l'Europe de Macron, mais pas trop fort non plus, pour ne pas fracturer davantage son camp. La droite allemande, comme ailleurs divisée entre le bloc centriste et les populistes, prépare déjà l'après Merkel. Elle le sait trop bien et va tout faire pour l'éviter. Si ces négociations de coalition échouent, l'après Merkel pourrait débuter plus vite que prévu.
Correspondance à Berlin, signée David Philippot. La Grande-Bretagne devrait annoncer le montant de la facture du Brexit avant le Conseil européen des 14 et 15 décembre prochains. Promesse du ministre des Finances, Philippe Hammond, lors d'une interview à la BBC ce matin. Vendredi dernier, Theresa May s'était engagée à revoir à la hausse le coût du divorce avec Bruxelles. En France, le Parti communiste n'échappe pas à la dynamique de recomposition qui affecte actuellement l'ensemble de l'échiquier politique. Un congrès extraordinaire sera organisé du 24 au 26 novembre 2018, l'an prochain donc. Le secrétaire national du PCF, Pierre Laurent, l'a annoncé hier soir. Il veut faire un bilan lucide de la situation de son parti et opérer une transformation politique. Stéphane Courtois est historien des mouvances et des régimes communistes. Il ne s'attend pas à un congrès si extraordinaire.
Une transformation importante, elle avait été tentée par Robert Hue, il y a déjà plus de 15 ans, presque 20 ans. Le problème, c'est que ça n'avait absolument pas marché, et il y avait quand même eu un événement symbolique extrêmement fort, c'est que Robert Hue avait démissionné de son poste de secrétaire national et avait même quitté le Parti communiste. Donc ça ne s'était jamais vu. C'était quand même un signe d'échec historique, c'est-à-dire que Robert Hue a considéré que bon, ce parti est irréformable et que son destin historique est terminé. Donc voilà à quoi peut aboutir le congrès extraordinaire. Il faudrait qu'il y ait des dirigeants extraordinaires. Que ce soit les cadres municipaux ou les cadres de la CGT qui sont la force du Parti communiste, ce sont les deux grands piliers de la force communiste depuis toujours, ne se renouvelle pas. Moi, je crains que le Parti communiste, dans ce congrès extraordinaire, continue sa politique de défense du bastion, jusqu'au moment où il n'y aura plus de bastion, c'est-à-dire où l'îlot communiste sera submergé par de nouvelles forces politiques et il sera englouti quelque part. C'est une espèce de but témoin d'une époque très ancienne avec la liquidation d'un héritage de 70 ans qui date de la sortie de la résistance et de la libération.
Des propos recueillis par Camille Marigot. Après le drame de Sarcelles, les policiers resteront armés. Déclaration du ministre de l'Intérieur à l'instant. Gérard Collomb réagit à ce policier de 31 ans qui a tué hier soir à Sarcelles trois personnes avec son arme de service. Il a aussi blessé grièvement sa petite amie avant de se suicider. Il est 12h40 sur France Culture, la face cachée du globe. C'est avec vous Nadine Epstein. Bonjour.
Bonjour. L'intitulé de cette journée, Journée mondiale des toilettes, est à prendre au pied de la lettre, à la cuvette, car c'est bien de water closet dont il s'agit. Un sujet de santé publique planétaire. Les WC sont des lieux inconnus pour plus d'un milliard de personnes. Ni toilettes, ni latrines, des centaines de millions d'hommes, de femmes et d'enfants se soulagent à l'air libre et les répercussions sont plus graves qu'on imagine. 2000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque jour du fait de maladies découlant directement du manque d'accès aux toilettes. Le choléra, la diarrhée, la dysenterie, l'hépatite A, la typhoïde, la poliomyélite, autant de maladies associées à un assainissement insuffisant, sans oublier d'autres maladies tropicales comme des parasitoses intestinales. Une femme sur trois dans le monde s'expose aux infections, à des risques de harcèlement ou d'agression parce qu'elle n'a pas d'endroit sûr pour aller aux toilettes. À Paris, par exemple, au nom du droit à l'assainissement, les sanisettes sont gratuites. Mais qu'en est-il à Bangui ? Reportage de Saber Jandoubi.
Tu es autorisé à pisser tranquillement comme tu es en train de le faire. Mais si on t'attrape, c'est avec ta langue que tu vas nettoyer. Bonne pisse.
Wilfried est un jeune centrafricain. Il loue un petit bureau dans l'antre d'un vieux gymnase de Bangui. Depuis des mois, tous les matins, c'est le même scénario.
Là, juste la devanture de la porte du bureau que nous occupons, c'est devenu vraiment un urinoir. Un urinoir, pourquoi ? Parce que comme les sanitaires ne sont pas en bon état, et je dirais n'existent presque pas, qu'est-ce qui se passe ? Les usagers qui arrivent, c'est complètement devant notre bureau. J'ai tellement nettoyé.
Puis il y a l'odeur là.
Voilà, mais et l'odeur, pisse là et le bureau, on peste l'odeur de l'urine. On ne peut rien faire.
Il faut dire qu'à Bangui, il n'y a pas de toilettes publiques. Les hommes, les femmes et les enfants se soulagent en plein air. Les administrations et les ministères possèdent leurs sanitaires, certes, mais souvent, se plaint un fonctionnaire, elles sont fermées ou dans un état digne de couper l'envie d'aller dehors. Des organisations humanitaires comme le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, construisent des latrines. Mais en fait, c'est quoi une latrine ?
En fait, c'est un trou pour récupérer toutes les matières fécales et éviter la défécation sauvage. Défécation sauvage qui pourrait, par contact, créer de nombreuses maladies telles que le choléra.
Marc Suchet, coordonnateur eau, hygiène et assainissement pour le CICR.
Enfin, nous, le CICR, on en fait principalement dans les camps déplacés parce que là, il y a des réels besoins, parce qu'il y a une population qui est très concentré avec des risques de propagation de maladies qui sont très forts. Il ne faut pas que la nappe phréatique soit en contact avec le bas de la fosse de la latrine. Et puis ensuite, on fait la structure, on met une dalle avec un trou et puis des planches et une porte pour l'intimité des déplacés qui vont utiliser ces latrines.
Voilà, modeste, simple et pratique, mais surtout vital. Une construction de latrine s'accompagne d'un volet prévention.
En collaboration avec la Croix-Rouge centrafricaine, on a des programmes de sensibilisation à l'hygiène. Par exemple, on met des points d'eau pour qu'ils puissent se laver les mains à la sortie des latrines.
C'est global, construire une latrine, ça peut sauver des vies ?
Absolument. Par contre, c'est plus facile de compter les morts que de savoir combien de vies ont été sauvées. Donc on sait que ça sauve des vies, mais il est difficile de dire combien. Quoi.
Selon des chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, eau salubre plus bonne hygiène plus assainissement égale possibilité de sauver près de 800 000 vies chaque année.
Les toilettes publiques les plus propres du monde sont en Corée du Sud. Le pays en est fier. Le journaliste Frédéric Ojardias raconte que dans la grande banlieue de Séoul, il y a une maison en forme de gigantesque cuvette de WC blanc écarlate en hommage à son ex-maire Sim Jak-deug, surnommé Monsieur Toilette. À l'opposé, c'est l'Inde qui détient le triste record du manque de toilettes. Les autorités et le gouvernement ont fait de l'hygiène une cause nationale. Objectif, que toute la population indienne ait accès aux toilettes dans 2 ans. Julien Hérard, d'Action contre la faim.
En Inde, vous avez un peu plus d'1 milliard d'habitants. On considère qu'il y en a à peu près la moitié qui n'ont pas de toilettes, donc qui pratiquent la défécation à l'air libre. Le problème est identifié depuis très longtemps. Gandhi avait dit à l'époque que l'assainissement était plus important que l'indépendance. Donc ça date pas d'hier. Et le gouvernement a décrété une cause nationale pour faire une campagne donc, de construction de latrines. Cette campagne est en train de se dérouler, puis elle avance à grands pas. Donc l'idée, c'est que l'utilisateur construit des latrines, et puis il présente une facture et une preuve de la construction avec des photos aux services concernés, et puis il peut se faire rembourser. Et donc ce système fonctionne. L'objectif, c'est en 2019 d'arriver à une couverture totale d'assainissement en Inde. Et en fait, il y a une corrélation statistique qui est prouvée entre la densité de population, le nombre de gens qui pratiquent la défécation à l'air libre et les maladies d'origine hydrique. Il faut comprendre que ce sont tout le temps des investissements rentables. Chaque fois qu'on investit 1 dollar ou 1 euro dans de l'assainissement, on va économiser entre 5 et 7 ou 8 euros en dépenses de santé, maladie, amélioration du cadre de vie. Donc de toute façon, c'est toujours un investissement rentable.
L'assainissement est une priorité mondiale. Les objectifs de développement durable adoptés en 2015 doivent, d'ici 2030, permettre l'accès de tout le monde à des services d'assainissement et d'hygiène et résoudre le problème de la défécation en plein air. Et on termine avec Bobby Lapointe et la chanson de toilette.
Pour faire un tube de toilette, en chantant sur cette terre bête, avec des jeux de mollets, il faut pondre des couplets. Permets que je te réponde, c'est sûr, faut que tu les pondes. Bon, mais que dois-je pondre ? Que ponge, que ponge.
Merci Nadine Epstein. La face cachée du globe est à retrouver sur notre site internet franceculture.fr. La météo de votre après-midi de ce dimanche 19 novembre, temps lumineux au nord de la Loire et au niveau des frontières sud, ciel nuageux en Nouvelle-Aquitaine et en Auvergne-Rhône-Alpes et les températures 3 à Amiens, 4 à Strasbourg, 7 à Paris et Lyon, 8 à La Rochelle et jusqu'à 13 degrés à Perpignan. Ce journal a été préparé avec Martin Descloseaux à la technique, c'était Pierrick Mancini.